On va commencer. Fred, we will begin, Fred and she. Donc on commence la session là, de l'après-midi, parce qu'en fait, comme on a un agenda assez rempli, on va commencer pour nos intervenants à la Queen's Library. C'est très tôt. Ils sont levés depuis, pour eux, c'est avant 8 heures. Maybe you can introduce yourself, Fred and she, and then we can begin.
So, bonjour de New York, Cathy et moi, nous sommes très contents d'être parmi vous en virtuel pour cette journée d'études de la communauté à la citoyenneté. Merci pour l'invitation. Et nous travaillons quotidiennement à offrir des programmes et services qui répondent aux besoins des immigrés de partout dans le monde et qui vivent à New York, et plus précisément dans le comté ou le borough de Queens. Cathy, you can start the
PowerPoint? Okay.
Yeah. Donc aujourd'hui, on va parler de l'accueil des nouveaux Américains à la Queen's Public Library. Et Cathy et moi, nous dirigeons ensemble ce programme. Et voilà, next. Donc le programme, comme vous voyez, n'est pas nouveau. Donc pour affronter le défi d'offrir des services aux immigrés, le projet pour nouveaux Américains a été créé en 1977 comme réponse à l'agrandissement du nombre immigrés, résultat direct des changements en 1965 dans la loi fédérale sur l'immigration qui a mis fin à des quotas par pays et par région dans le monde et a autorisé le regroupement familial. On a commencé modestement à cibler les communautés culturelles les plus représentées et petit à petit, nous avons ajouté de nouveaux programmes et services d'après les besoins. En l'an 2017, nous avons fêté notre 40e anniversaire de tendre la main aux communautés culturelles qui habitent le Queens. Notre programme vise à offrir des services aux différentes communautés afin de faciliter leur intégration dans la société américaine. Nos programmes et services incluent des ateliers en différentes langues sur les capacités d'intégration, des ateliers sur la préparation à la citoyenneté, des programmes culturels célébrant leurs traditions et leur culture, des documents d'information et des cours d'anglais pour personnes parlant une langue autre que l'anglais à la maison. Le New Americans Program comprend des services, des activités et des collections variées. Ceux-ci permettent de faire connaître les différentes cultures des membres de la communauté et d'inciter ces derniers à fréquenter la bibliothèque. Les programmes évoluent en fonction des analyses démographiques des différentes régions et selon les besoins des usagers. Nos objectifs sont fournir des programmes et des services pour aider les immigrants à s'intégrer à la société américaine, célébrer les nombreuses cultures représentées et offrir une occasion de les partager avec la communauté dans son ensemble, permettre aux participants d'apprendre à communiquer en langue anglaise, former les membres du personnel des bibliothèques pour qu'ils comprennent les défis vécus par les immigrants et qu'ils sachent où les diriger. 6 employés à temps complet travaillent au New Americans Program. Ce sont 4 bibliothécaires, comme vous voyez sur l'écran, un assistant à la citoyenneté et un secrétaire. À l'origine, le projet pilote était financé par une subvention fédérale. Le New Americans Program est maintenant, et depuis plein d'années, financé par la Bibliothèque de Queens, qui lui attribue un budget venant du financement de la ville et aussi on reçoit des subventions. Voilà, donc le comté de Queens, c'est une partie des 5 comtés ou boroughs de la ville de New York. Probablement vous le connaissez parce qu'à Queens se trouvent les 2 aéroports de la ville, LaGuardia et Kennedy. Donc, nous sommes le Ellis Island du 21e siècle. et nous serons la quatrième ville des États-Unis si on se séparait de la ville de New York, avec 2,3 millions de résidents. Donc, c'est un passage continu pour l'immigration. La majorité des immigrés viennent de l'Amérique latine et des Caraïbes, République dominicaine, Colombie, Équateur, Mexique et Haïti. L'Asie de l'Est, c'est la Chine, la Corée du Sud. L'Asie du Sud, Bangladesh, Inde, Pakistan, les Philippines. Et Europe, Russie, Pologne et l'ex-Yougoslavie. Chacune des 62 bibliothèques de quartier et la bibliothèque centrale sert un quartier distinct avec ses caractéristiques propres et les collections et les programmes reflètent la communauté desservie. La bibliothèque de Queens a une longue tradition de contribution sociale et fait toujours tout son possible d'orienter ses actions vers la communauté dans laquelle elle se trouve. Et comme vous voyez, les cinq langues les plus parlées, à part l'anglais, ce sont c'est l'espagnol, le chinois, le bengali, qui a pris le relève sur le coréen récemment, et le russe. Bon, voilà le symbole de Queens, c'est l'hémisphère. C'est construit pour l'exposition mondiale de 1964 à New York. Et j'oubliais de dire que des 3,1 million de résidents de la ville de New York nés à l'étranger, 35,5% habitent le Queens, donc plus de 1 million de personnes. Bon, on ne pouvait pas faire notre travail sans les partenariats, ça ne sera pas possible. Les bibliothèques travaillent en collaboration avec les organismes communautaires s'occupant des immigrants pour analyser les besoins locaux, créer de nouveaux services et renforcer l'engagement civique. Ces partenariats permettent aussi de guider le développement de collections dans des langues qui ne sont pas familières aux bibliothécaires. Par exemple, on a travaillé pour les collections en Pashto et Dari avec une organisation de l'Afghanistan qui nous a aidé à choisir les livres. On a trouvé que des partenariats avec des organisations communautaires sont essentiels pour créer des programmes culturels et éducatifs qui auront du succès auprès des nouveaux arrivants et les inciteront à venir à la bibliothèque où ils peuvent bénéficier de toute la gamme de programmes et services gratuits disponibles. Voilà quelques partenaires chez nous. Donc, les deux premiers nous ont aidés à débuter nos cours de citoyenneté que nous menons nous-mêmes maintenant avec les professeurs qu'on engage. Le Queen's Chamber of Commerce, nous a aidés avec des ateliers sur le petit commerce, les entrepreneurs. Connect, c'est sur les questions de femmes et de la famille, Asian Americans for Equality, sur des questions de logement et de trouver un logement. Et nous travaillons aussi avec le New York Immigration Coalition, beaucoup d'organisations communautaires qui travaillent avec et pour les immigrés font partie d'une organisation fédératrice, la New York Immigration Coalition, qui défend les intérêts des immigrés auprès des élus, tant au niveau local de l'État de New York et même au niveau fédéral. Chose que la bibliothèque, étant donné son statut de société à but non lucratif, ne peut pas faire directement. Donc, on ne peut pas faire le lobbying directement, mais on peut faire partir de cette coalition qui le fait. Mais on travaille aussi avec des partenaires dans le gouvernement, donc avec la ville, le Mayor's Office of Immigrant Affairs. Cathy va en parler un peu plus en détail, mais là, c'est surtout sur des services juridiques pour les immigrés et des ateliers sur comment connaître vos droits. Avec le United States Citizenship and Immigration Services, on a commencé les points pour les nouveaux Américains avec des renseignements sur comment devenir un citoyen. Et avec le Queensborough President's Task Force, ce sont un moyen d'avoir plus de renseignements sur ce qui se passe dans le monde des immigrés et aussi pour faire le networking. Et je vais en parler un peu plus maintenant. Donc, ce groupe de travail sur l'immigration du Queensborough President, c'est unique parmi les 5 boroughs de New York à cause du nombre d'immigrés. Le président, il y a déjà 3 présidents en arrière, a décidé que c'était très nécessaire pour que les organisations qui travaillent avec les immigrés puissent se réunir, se discuter, etc. Donc, ça nous donne des informations utiles. On reçoit des présentations chaque mois sur la santé, le droit, les impôts et leur impact sur les immigrés. Aussi, on a des rencontres et discussions informelles parmi les professionnels qui travaillent dans ces domaines. On a une occasion de faire des annonces, des activités de son organisation et de chercher des partenaires pour des actions à venir. On travaille aussi avec les consulats et des institutions culturelles à New York, donc par exemple le consulat chinois de Chine. Nous avons eu des programmes culturels avec des participants venant directement de la Chine, par exemple pour des ateliers sur des crafts, j'ai oublié le mot, bon. Et des expositions. Avec le Centre d'éducation de la Corée, nous ont offert une subvention pour offrir des cours de langue coréenne qui sont très, très populaires. Et avec le Queen's Museum, ils ont un programme qui s'appelle le Programme des Nouveaux New-Yorkais. Et on a des ateliers artistiques bilingues au moins 4 à 5 fois par an sur toutes sortes des arts plastiques, la photographie, etc. Et comme j'ai dit que le Bangladesh, la communauté a beaucoup agrandi à New York, on a une très bonne relation avec le consulat général de Bangladesh. C'est le seul à New York à avoir son siège dans le Queens au lieu de Manhattan. Et deux tiers des Bangladeshis à New York habitent le Queens. Donc à peu près 50 000 personnes, je crois. Donc récemment, on a inauguré le coin Bangla à la bibliothèque, c'est-à-dire une collection de livres en bengali, mais aussi des livres en anglais pour adultes et quelques pour enfants, pour commémorer le 100e anniversaire de naissance du père de Bangladesh. Et on avait essayé d'avoir une cérémonie d'ouverture en 2020, mais malheureusement, c'était à cause de la pandémie, ça a été reporté jusqu'à cet automne. Le projet, c'est un projet clé pour le consul général. C'était pour aider à ses compatriotes à connaître leur histoire et, avec des livres en anglais, à introduire l'histoire du pays aux autres. Voilà l'inauguration avec notre PDG, troisième de gauche, avec le consul général de Bangladesh, deuxième dernière à droite. En présence du ministre des Affaires étrangères de Bangladesh, qui était à New York pour l'ouverture des Nations Unies pour couper le ruban cérémonial. Donc, malheureusement, on n'a pu inviter que 20 personnes à cause de la pandémie toujours, mais c'était une bonne occasion et c'était présenté sur la télévision en direct pour les Bangladeshis à New York et même en Bangladesh. On fête aussi la Journée internationale de la langue maternelle, qui est une journée reconnue par l'UNESCO et les Nations Unies. Et c'était une initiative de Bangladesh pour commémorer le mouvement en 1952 pour protéger la langue bengali. Nous fêtons cette journée à la bibliothèque avec le consulat de Bangladesh et les représentants de plusieurs pays membres des Nations Unies depuis 2018, avec de la poésie, des discours et bien sûr la musique, la danse, etc. Voilà une petite histoire sur une collection en langue birmane. À la bibliothèque, nous essayons d'avoir des collections de fond dans les langues les plus parlées, comme je vous ai dit, l'espagnol, le chinois, etc. Et une vingtaine d'autres, par exemple le hindi, l'ourdou, la polonaise, le polonais et le turc. Mais des fois, avec la nouvelle immigration, on ajoute des collections telles l'indonésien, le népali, le thaï. De temps en temps, on reçoit des demandes des communautés qui veulent que leur langue soit représentée à la bibliothèque. C'était le cas avec la communauté birmane. Dans ces cas, on étudie les statistiques du recensement et on parle avec les gens intéressés. Donc, si par exemple, ils sont concentrés dans un quartier en particulier, la conversation se poursuit. Ici, c'était le cas. On a parlé avec les représentants de la communauté, on a expliqué qu'on avait un programme comme ça parce que nous avons une fondation de la bibliothèque qui lève les fonds pour des projets spéciaux. Donc, on a dit que si vous pouvez lever la somme de 500 $, la fondation va la compléter avec 500 $ et on va débuter une petite collection. Finalement, ils sont revenus avec 4 000 $ et la fondation a donné 1 000 $, donc on s'est lancé dans le projet. Une autre fois, je vous raconterai le saga d'obtenir des livres venant de Myanmar, mais comme vous voyez ici, la collection a été inaugurée en présence des élus, des moines bouddhistes et les birmanais du quartier. C'était un grand succès pour l'image d'une bibliothèque pour tous. On a aussi des partenariats avec les bibliothèques internationales. Je parle maintenant uniquement des partenariats qui sont toujours en cours. Donc, une coopération avec la bibliothèque de Shanghai de longue date. On a créé à notre bibliothèque à Flushing, qui est dans une communauté où il y a beaucoup de Chinois. Nous avons la fenêtre sur Shanghai, de la Corée du Sud, de la Bibliothèque nationale. On a des collections et aussi accès spécial à leur base de données sur la Corée. Et la Bibliothèque nationale de la Géorgie, de l'ex-Union soviétique, là, c'était un projet qu'ils ont eu de trouver des endroits partout dans le monde où il y a des communautés, des gens qui sont venus de la Géorgie, de la diaspora. Donc, on a commencé une petite collection et on a un de nos catalogueurs a pris quelques leçons. Elle a appris l'alphabet géorgien pour pouvoir cataloguer la collection avec l'aide d'un professeur de l'Université de Columbia à New York. Donc, elle était très intéressée à faire ce travail. Et maintenant, juste récemment, avec le Taïwan, on va commencer un échange de livres chaque année. Et c'est surtout pour l'assistance au développement des collections multilingues. Donc voilà, je termine sur les partenariats avec des résultats significatifs. Donc, comme vous voyez, c'est une manière de sensibiliser les gens des différentes communautés ethniques aux services offerts par la bibliothèque, surtout s'ils viennent d'un pays, par exemple, des pays d'Amérique latine où pendant longtemps, les bibliothèques étaient vues que pour les universités, n'étaient vues que pour des universitaires. Il n'y avait pas vraiment de bibliothèque publique comme on en pense aujourd'hui. Ça change bien sûr, mais c'était le cas pendant très longtemps. Donc, ils n'ont pas l'habitude. Donc, il y a une utilisation croissante de la bibliothèque à cause des programmes et des services qu'on offre. Et surtout, c'est notre désir que la bibliothèque soit perçue comme centre communautaire ouvert à tous. Pendant les années, on a élargi la gamme de services, et Cathy va vous en parler. Mais aussi, avec les partenaires, ça donne davantage de visibilité pour chaque partenaire. Ils sont tous perçus comme fournisseurs de services essentiels par la communauté. Voilà, donc maintenant je passe la parole à Cathy. Moi, j'ai l'habitude de nommer Cathy, mais aujourd'hui, elle s'appelle Chi. Et elle vous parlera plus en détail des programmes et services sous sa tutelle. Merci beaucoup.
Okay, thank you, Fred. Je suis très enchantée. I need to practice my French. Thank you for the invitation. Next, I'll give you an overview of our programs and services. So first, I want to highlight is our coping skills workshops. But you can see, even though I'm talking in English, Fred is very nice enough to translate all the slides into French. So you can see on the screen, those are in French. So our coping skills workshops are those educational workshops that help our new immigrants how to adapt and adjust to the life in the US. The topics are like include immigration law, how to become a US citizen, starting a small business, health, parenting, and how to find a job, many topics. So we offer those programs mainly in English and other primary immigrant languages in Queens. So the top five immigrant languages in Queens right now is Spanish, Chinese, Korean, Bengali, and Russian. Many of those workshops actually are responding to the current issues in the U.S. So just to give you some examples about some workshops about the TPS. TPS means temporary protected status. So those status are providing for those people from certain countries, either because of the natural disaster or political conflicts. So right now they have, in the US, we offer TPS for Haitian nationals. And also another example is DACA. DACA means Deferred Action for Childhood Arrival. So I tried to explain a little bit. I'm not a lawyer, but DACA is it's an immigration policy which allows some people with unlawful presence in the U.S., but they were brought to the country as a child. The law allowed them to receive a 2-year deferred action from deportation and also become eligible to work in the U.S. Another example is we offer workshops for Know Your Rights, for example, housing rights, and also how to deal with immigration officers if you're undocumented. I want to also talk about a little bit about how we provide coping skills workshops during the pandemic. As you all know, probably know, since we closed our library locations last March, and our program staff have transferred our services into virtual very quickly. So as you can imagine, the COVID-19 crisis has the most impact to the immigrant communities. A majority of immigrants lost their primary source of income, and then they were seeking food aid and financial relief during the pandemic. So I guess as their most trusted public library program, so we offer many coping skills workshops based on their needs and based on our available resources. Just to give you some examples, we offer coping skills workshops about how you file unemployment benefits or how to enroll health insurance. Those are very important for those people during the pandemic. We also offer computer classes in different languages and also citizenship preparation classes to help them to pass the test. So, and also, of course, all these efforts we cannot really done without wonderful partners with a lot of the community-based organizations. Fred mentioned some of them. So those are great partners. And you can see here on the screen, there's a flyer. Actually, it's a flyer for an in-person program before the pandemic. This program is targeting Bengali women. And actually, you can see this is a very typical example about how we promote our workshops. And we always do our flyers bilingual. So English in the front and another language at the back. And also, we are really careful about the wording for the topic. Actually, this workshop is talking about how to prevent domestic violence, but we changed the wording to how to keep your family together. Otherwise, we will not have enough people attending. So,
Alors, elle explique que là, c'est typiquement la façon dont ils essayent de s'adresser aux différentes communautés. Donc là, c'est une proposition d'atelier, en fait, qui a lieu en deux langues, en anglais et je crois, si j'ai bien compris, en bengali, c'est ça ? Et c'est un atelier qui cherche à prévenir la violence domestique, mais ils font très attention dans la façon dont ils formulent l'intitulé de l'atelier, parce que si c'était dans l'atelier, enfin dans la formulation, la prévention de la violence domestique, bien sûr, personne ne viendrait. Donc là, c'est plutôt comment conserver la bonne entente familiale ou quelque chose comme ça pour que les gens aient envie d'y venir. You can go on. Thanks a lot.
Okay, thank you. All right, so this one on the screen is also another, we call social media graphics for one of the Spanish computer classes. I guess this is just like a to show you example. And we do this through our platform. It's called WebEx. It's similar to Zoom. Do you want to translate?
Yes, thanks a lot. Okay, ça, sure. C'est une proposition d'atelier virtuel, donc sur le en espagnol. Et ça concerne tout ce qui est les social media, donc tout ce qui tourne autour de la technologie, etc.
Yeah, and this one, because I tried to show you some examples. So this one is one of the virtual programs about immigration law in Nepali. Those two workshops you can see on the flyer were provided through Facebook Live. And we partner with one of the most engaging radio hosts and also a few lawyers in the Nepali community. And then because of those partnerships, the programs were very successful. We have reached about thousands of people in the Nepali community.
Alors là, c'est vraiment intéressant. C'est un atelier qui est proposé sur Facebook Live. Le précédent, c'était sur WebEx. C'est sur les lois d'immigration donc en népalais. Et ça a eu beaucoup de succès puisqu'il y a plus de 1000 personnes qui ont suivi les ateliers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils intègrent, il y a un partenariat avec des membres de la communauté népalaise et notamment des avocats népalais qui participent à la tenue de ces ateliers.
OK, thank you. All right. I guess in addition to coping skills workshop I just talked about before, we also provide cultural programs. So of course, cultural arts programs are, those programs that celebrate arts and the literature of ethnic groups in Queens. So just to give you example, but you can tell by the culture, so those include music, dance, theater, storytelling, author talks, and bilingual poetry readings, of course, and there's more formats, anything that celebrates culture. And we also celebrate annual festivals for different communities. Just to give you an example, we celebrate Lunar New Year, Russian festival, Eid celebration. Eid is one of the, I guess, biggest holidays in the Muslim community. And we also celebrate Hispanic Heritage Month. I guess right now we're still celebrating because it's from mid-September to mid-October. And we celebrate Indian Festival of Lights. Also, we celebrate Immigrant Heritage Month, which will be in April next year. We celebrate each year. So those are the cultural arts programs. And I want to talk about something about how we really offer cultural programs during the pandemic. So I mentioned before, since March 2020 last year, most cultural institutions across the U.S. were closed, and many performances and events were canceled. However, we think cultural heritage and access still remain very critical to our customers. So in response, we offered different cultural programs, and I'll show you some examples later on. The thing I want to mention is our Chinese Author Talk series were very successful. We partnered with the American Association of the Chinese Writers, and the average attendance for each workshop is always more than 80 people, 80 to 100. And of course, as you can see on the screen, we have a bi-weekly programming committee meeting. So we collaborate with branch staff that serve immigrant communities. So during the committee meeting, we really discuss program ideas, suggest performance, and also brainstorm many ways how we promote programs. And in addition, our division initiated a cooking video project. So we have asked staff to produce a series of videos showcasing their recipe from different personal cultural heritage. And this project is really provide a cultural connection between our diverse staff and immigrant communities. So do you want me to go on?
Yes, you can go on.
Okay, sure, okay. All right, so this, I just want to show you some flyers for one of our cultural arts program. So the screen you see, it's a Korean program, the Beauty of Korean Tea. This program is funded by Korean Education Center in New York. Since 2014, we have been offering Korean language classes and the Korean cultural arts programs. So in many branches. So when we choose the location where we offer the program, we try to choose some locations where there's a mixed population. We have either Korean-speaking customers, and we want to make sure that community there's also English-speaking natives. So Korean culture can be introduced to the main community. And you can see here, it's in English and Korean.
Alors là, vous avez un des exemples, je crois que vous l'avez compris sur la slide précédente, si vous n'avez pas compris ce que disait Shi, ils font beaucoup d'ateliers, de programmes aussi autour de la culture au sens large des différentes communautés, ce qui inclut également l'aspect culinaire. Et là, vous avez un atelier autour de la cérémonie du thé coréen. Et ils font attention à ce que cet atelier soit proposé dans des quartiers où il y a une mixité de populations qui puissent à la fois toucher les Coréens, mais aussi d'autres populations qui aimeraient s'ouvrir à cette culture, à une approche de la culture coréenne.
The next one, I'll show you the example, is one of our virtual programs on Chinese Music Appreciation Series. So it's usually they're delivered on Facebook Live.
Voilà, là c'est par exemple une autre proposition culturelle, cette fois-ci peut-être un peu plus classique, sur une artiste chinoise qu'on peut suivre en Facebook Live.
So, and then this one, another example is one of our virtual programs during the Hispanic Heritage Month. And this program, we have invited a theater company called Teatro C. So we asked them to perform a storytelling with puppets, featuring the Pura Belpre project. Pura was the first Puerto Rican librarian in the New York City. So we tried to tie the librarian theme and with the Hispanic Heritage Month celebration.
Voilà, et là, il y avait un mois dédié à la culture hispanique. Et dans le cadre de ce mois, dans une des bibliothèques, ils ont fait intervenir une compagnie théâtrale qui a proposé un spectacle en espagnol. Toujours à suivre aussi sur le Facebook Live.
Thank you. Yeah. And then next I want to talk about is our New Americans Corner. So this project is actually, it's an agreement. It was an agreement between the USCIS. So I know Fred mentioned earlier, it's a United States Citizenship and Immigration Services. It's between USCIS and the Mayor's Office of Immigrant Affairs. So the agreement was signed in 2015. So we have established New Americans Corner in all of our library locations and the adult learning centers. At the time, it was about 69 locations. But the purpose of this New Americans Corner is to provide easy access to the citizenship information. So, and then I guess, do you want me to stop there and have more?
I can just explain shortly. Okay. Dans toute leur bibliothèque, ils ont institué à partir de 2015 un coin qui s'appelle le coin des nouveaux Américains pour que les migrants notamment aient un accès très facile à de la documentation sur la façon dont ils peuvent s'insérer plus facilement dans la vie américaine et sur la citoyenneté, les démarches à faire, etc.
Okay, yeah. And I also wanted to tell you what we put in the New Americans Corner. So what we include there. So we put the form N-400. This is the application to become U.S. citizen. It's an application form. And also we put some materials from the United States Citizenship and Immigration Services and also Mayor's Office of Immigrant Affairs, you know, those pamphlets. And we also put books or DVDs or CDs that help you prepare the test. And of course, we also put some, flyers to from the library that help you pass tests, for example, citizenship classes. And we put also referral lists too.
Alors là, elle a un petit peu détaillé ce qu'ils mettent dans ces coins pour nouveaux Américains, donc des formulaires notamment pour faire une demande de citoyenneté américaine, des CD, des DVD qui peuvent les aider dans leur apprentissage de la langue, notamment différents formulaires administratifs. Alors, si vous voulez compléter, je ne sais pas, Eleonore, si tu as compris d'autres choses, je ne sais pas, la liste n'est pas exhaustive dans mon esprit, mais en tout cas, tout ce qui peut aider, effectivement, à une approche à s'intégrer et puis à s'approprier la culture du pays aussi.
So, and then next one I want to talk about, this is the NY citizenship. This project actually is a partnership between, for the same thing, the New City Mayor's Office of Immigrant Affairs, and then with the free library systems in the New York City. And so we partner with a legal service organization. So we provide one-on-one appointment with the lawyer, for application assistance for the U.S. citizenship. And we also provide workshops for the public about the citizenship application process. Of course, as part of the program, we also offer free financial counseling. This project was from 2016, and it was just ended in 2020 last year. And of course, since I mentioned earlier about we offer services to help people pass a test, in our library, we also offer citizenship preparation classes. So those classes are funded either by the city or we partner with other community-based organizations. So the customers can learn everything about American history, government, and culture during the class. And usually those classes last about 10 to 12 series, and also they are taught by experienced instructors. And of course, we provide free materials, free books to them. And then those students from the class also have access to free application assistance. We have, we can always refer them to the free lawyer. And I want to show you, actually, you can see from the screen, it's one of the citizenship celebration from actually 2017. It was September 18, 2017, in the Flushing Library, one of the biggest, busiest libraries in the country. So you can see those customers, actually, those are the customers who passed their citizenship through our library programs. So we had a big celebration for them. You can see we offered them the certificate, and we also had a nice cake to celebrate the occasion. So you can see the cake it says, Queen's Library celebrates our new citizens.
Alors là, vous avez sur cette image une cérémonie pour fêter la citoyenneté. Les gens que vous voyez sur l'image là se sont réunis en 2017 dans une des plus grandes antennes de librairies du district de Queens. Et en fait, c'est des gens qui ont lancé une procédure de demande d'asile par le biais de la bibliothèque. Et là, ils célèbrent ça ensemble.
So, and the next one I want to talk about is, as I mentioned earlier, one is in-wise citizenship, of course, in addition to provide assistance to become a U.S. citizen, we also offer different services, other kinds of immigration legal services. So this is a new program, you can see Action NYC. It's actually started January this year. So it's actually expansion for the in-wise citizenship program. So this program, we also partner with a legal organization, and we provide also one-on-one legal consultation for customers. So just want to point out, in the library, anything that deals with legal services, we partner with other legal organizations. We don't provide a service ourselves because we are not lawyers. So we are very careful about how we provide legal services. And we also provide clinics. That means we partner with other nonprofit organizations to do clinics to help people how to file immigration legal services.
Maybe just a word. Peut-être okay. un petit complément utile à ce qu'il y a sur la slide là, c'est qu'elle dit bien qu'ils ne sont pas des avocats et que justement ils font recours à des associations avec des avocats parce qu'ils ne sont pas juristes et ils tiennent à ce que les informations transmises aux gens soient vraiment de grande exactitude et puissent vraiment réellement les aider dans leur parcours d'intégration.
All right, so and also here, I also want to talk about how we provided citizenship and immigration legal services during the pandemic. Even though during the pandemic, we see the need for immigration legal services still there, and it's even increasing. So we, based on our survey, so we hosted several citizenship application assistance clinics with several partners. We also continue serving customers with the program I mentioned, Action YC, and other referring to other partners if we cannot serve them. Because if there are too many people, we have to refer them out. And also, our staff was able to compile a list of online remote resources so that people can refer to, and also they can study online to prepare their tasks. Next one, I want to talk about a little bit about our division, New Americans Program, and the Census 2020. So last year, 2020, actually it was a very important year for Census 2020, but unfortunately, outreach was very hard because of the pandemic. Because we closed all our library locations since March last year. So usually the programs, we go to different branches to promote Census 2020, but since the library was closed, so we have to be creative. So so that's why our staff played a very critical role. So we partnered with actually our Queens Library Census team that's comprised of one civic engagement manager, and also a team of census navigators. So we asked our staff to use the script about focusing on immigrants at the beginning of all of our virtual programs. And we also helped promotion for videos about census in different languages, in more than six languages, as you can see here. Those are in Arabic, Bengali, Haitian Creole, Hindi, Mandarin Chinese, Spanish, and Urdu and Tibetan. So we also actually try to invite U.S. Census Bureau representative to provide presentations in our ESL classes. So ESL classes, those are the classes we provide for people to learn English. And there's more in addition. Furthermore, we also ask our Queen's Library Census Navigators to do presentations at our coping skills workshops. Of course, those are all virtual, but it's very helpful because, you know, people can get some kind of like concept, during our coping skills workshops at the beginning. Of course, our staff in our division, each staff has a language ability. So because of that, we also help with translating and proofreading all of our Queen's Library census promotional materials. We did in Bengali, Chinese, French, and Haitian Creole.
I don't know if you have much more, but just at 3 o'clock, we have other workshops, and it's just maybe to have the time for some questions. But you can keep on with that one. But do we have a lot more? Or?
No, I think it's almost finished. This is the last one.
Okay.
The diversity visa lottery. And then, I think that's about it. So, I'll try to make it quick. So this one, I want to make sure, I'm not sure if you heard of diversity visa lottery. Maybe this is special in the U.S. So this program is, it's administered by the Department of State. And every year, this program allows up to 50,000 people to get a permanent resident status in the U.S. and for some low immigration rates countries. And so as a New Americans program, even though we don't help them file applications, but we always organize public information sessions so people know, if they are eligible, what are the requirements to get the to apply for the diversity visa lottery. And of course, we also coordinate with the branches to help people scan photos to upload to the website. This year is also we have diversity visa lottery program, and we are in the process of coordinating different programs for this year. It's from October 6th until November 9th. Usually it lasts a month. This one is probably mentioned by Fred, so we can skip these two slides. So this is the last one. So I want to show you actually the picture from our program brochure. So just to reiterate, so our New Americans program, celebrate our Queens residents' cultures and it helps newcomers understand life in the United States. But we want to, we want newcomers to know that we continue to provide programs, classes, workshops, and referrals during the post-COVID era. I think that's it. And then I think these are our contact information for emails. If you have any questions or comments, you can always email us. And then I guess that's the question now, session. Thank you.
Thanks a lot, Chi and Fred. Et ils ont laissé leurs coordonnées si vous voulez leur poser des questions par mail aussi. Si vous avez des questions maintenant, on a 5 minutes en gros.
Bonjour et merci pour cette présentation. Je ferai la traduction. Je suppose qu'il y a de nouveaux besoins et notamment de communautés qui apparaissent. Comment faites-vous pour les identifier et comment y répondez-vous? Maybe thank you for that presentation. Maybe you have new demands of communities, of new needs that appear in the incoming years. So how do you identify them and how do you respond to them?
Okay,
I'll start. So for many years we have access to what's called the American Community Survey, which is related to the census, but somewhat different. It's a survey that's done all around the country each year. And from that information, we can get, we have someone on staff who's our, manager of organizational assessment, and she works with demographic data of all sorts, but we work with her to get statistics for the different neighborhoods. And languages spoken, countries of arrival. I know it's a little bit different in France because that's not part of the census in France, at least from what I remember when I was at the BPI many years ago. So that helps us a great deal. But we also, as she was saying, we rely a lot also on the branch managers and the branch staff. So when they see things in their neighborhoods that change, for example, new restaurants opening, new newspapers on the newsstand in different languages, they let us know about that, and then we look into it, and we also are able to pose inquiries to the population division of the New York City Department of City Planning, which does follow the neighborhoods and the changes. So there's a number of different ways that we can identify changes. And also many times, as with the Burmese community, they will contact, the Burmese community was very clever, let's say. They contacted first their local elected official to say, we're here, and we want to know the library to know we're here. So then it was the elected official who contacted the library's government and affairs office to talk to us. So there's many different ways.
We need to translate shortly. Alors, il explique qu'en fait, il y a plein de façons de capter les nouvelles communautés qui se développent, enfin de détecter plutôt les nouvelles communautés qui se développent. D'abord, il y a un sondage, un vaste sondage qui est réalisé, et il y a quelqu'un de la bibliothèque qui fait le lien avec les personnes qui réalisent ce sondage dans les différents districts pour voir les pourcentages de nouvelles populations, enfin de nouveaux groupes de populations qui arrivent. Les managers, les responsables des différents établissements locaux sont aussi très sensibles au développement des quartiers, s'il y a de nouveaux restaurants d'origine étrangère qui ouvrent, etc., des nouveaux commerces, des nouveaux journaux, etc. Et en fait, ils s'appuient sur ces différentes données pour proposer de nouveaux services. Je résume hein, parce que ça serait plus long.
Bonjour, merci pour cette intervention. Je voulais savoir si les bibliothèques ont une politique active de diversité à l'embauche. Est-ce qu'ils embauchent des personnes des communautés? I can translate. Thank you very much for this really interesting presentation. I wanted to know if you have an active diversity policy when you hire staff for the libraries. Do you hire people from the communities that you serve?
Fred, Ochi.
Okay, oui, sur l'embauche. Donc, d'abord, comme on est dans le comté aux États-Unis le plus diversifié qui existe, quand il y a des annonces pour des postes, ça dépend. Par exemple, je dirais que 20% des chefs de nos succursales sont d'origine chinoise, par exemple. Il y a aussi c'est ouvert à tout le monde, et comme on a aussi un programme des gens qui commencent à travailler dans la bibliothèque pour remettre des livres sur les rayons, etc., quand ils s'intéressent à la bibliothèque, des fois ils continuent ou ils sont dans des postes de clerc dans la bibliothèque. Ils ont des possibilités d'avancement dans la bibliothèque, et on a un département qui aide, le département de training.
Formation.
De formation, oui, merci. qui donne des fois des ateliers sur comment avancer votre carrière à la bibliothèque, donc même à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, c'est très important pour nous parce que, comme Cathy a dit, avec la traduction, la lecture, etc., surtout dans différents départements, le catalogage, on a des gens d'un peu partout, tous les pays, mais qui nous aident à faire certaines choses. Donc, pour nous, la diversité, c'est très, très important.
Merci beaucoup, Fred. Il y aurait plus de questions, mais malheureusement, on a un autre programme qui commence à 3 heures. D'accord. Et on doit tenir
temps. On peut toujours nous envoyer des questions. Peut-être, oui, on peut remontrer. Mais vous avez...
On va transmettre à nos collègues, bien sûr, vos adresses mail et vous pourrez poser des questions également par mail si vous en avez un.
Oui, vous retrouverez également les supports d'intervention sur notre site. Sans aucun problème. Merci beaucoup.
On vous remercie
Fred
beaucoup,
et
Fred et Chief. Thanks a lot. Many, many thanks.
Bonne continuation de congrès.
Merci.
And have a nice day. Thank you.
À bientôt.
Bye bye. Thank you. See you soon.